ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Lorsqu'elle est arrivée en ville pour étudier à l'âge de 17 ans, Laurence Parent pensait y trouver l'indépendance et la liberté. Mais elle s'est vite rendue compte que le manque d'accessibilité, particulièrement dans les transports, n'était pas compatible avec ses envies d'autonomie. Elle était presque résignée, avant de voyager ailleurs au Canada et aux États-Unis, d'aller étudier à Toronto. Elle a alors compris le retard de Montréal dans les politiques d'accessibilité et leurs applications. En 2009, elle a cofondé le regroupement des activistes pour l'inclusion du Québec, plus connu sous le nom de RAPLIC, et en a occupé le poste de vice-présidente jusqu'en 2014. Le RAPLIC est un organisme de défense et de promotion des droits des personnes en situation d'handicap. Autant dans ses études que dans les médias et par ses actions de mobilisation, Laurence Parent continue de sensibiliser et de combattre l'exclusion. Nous la recevons tout de suite après. Laurence Parent, militante pour l'accessibilité, étudiante au doctorat en sciences sociales à l'Université Concordia. Bienvenue dans nos studios.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Très heureuse de vous accueillir, Laurence. Alors, Laurence, on veut tout savoir de vous. On aura 60 minutes. Combattante en premier lieu, toujours. Et tout à l'heure, avant de préparer l'émission, je vous voyais que vous étiez en train de parler avec les camarades. Vous avez toujours cette envie de vous battre et de faire quelque chose pour la société.
Oui, en fait, oui. Et c'est difficile d'expliquer pourquoi, mais c'est toujours quelque chose que j'ai en moi, même si j'ai pas vraiment le temps nécessairement de le faire. C'est comme si j'avais un sentiment d'urgence,
oui,
d'agir, de prendre la parole sur ces enjeux, plus spécifiquement au niveau de l'accessibilité.
Alors, petite, vous étiez comment? Vous avez vécu dans une ville, d'ailleurs, le nom n'existe plus. Hein? On appelle ça les Bois-Francs. Maintenant, c'est le centre du Québec, Mauricie-Bois-Francs. Donc, vous avez eu votre enfance là-bas?
Oui, mais en fait, je suis née à Québec. Et à l'âge de 8 ans, mes parents et moi-même sommes déménagés à Lemieux, qui est un petit village d'environ 300 personnes dans le centre du Québec. Donc, entre Victoriaville et Trois-Rivières.
D'accord. Et puis, comment c'était cette enfance? Est-ce que vous étiez solitaire? Plein de monde autour de vous? Ça s'est passé comment?
En fait, moi, je suis enfant unique. Donc, j'ai passé énormément de temps toute seule avec mes deux parents. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une famille vraiment formidable. Donc, pour moi, enfance égale bonheur, plénitude, c'est vraiment juste des bons souvenirs. Puis je pense que quand c'est tellement beau, c'est difficile de mettre des mots. Donc pour moi, c'est vraiment une période, très belle période. À l'âge de 3 ans, bon, j'étais assez jeune, je m'en souviens plus, mais commençais à avoir des petits problèmes de santé. Les médecins savaient pas trop bon ce qui se passait. Puis ils ont découvert que j'avais une compression de la moelle épinière. En fait, moi, depuis ma naissance, là, il y avait clairement un diagnostic qui avait été établi, mais il y avait des problèmes qui commençaient à se manifester. Donc, j'ai été opérée à l'âge de 4 ans. Une opération dans la moelle épinière pour faire plus de place, pour que les nerfs puissent passer. Donc, vraiment une grosse opération, mais à cet âge-là, à 4 ans, même de l'opération, c'est pratiquement des bons souvenirs, sauf évidemment les hallucinations à cause de la médication, des choses comme ça. Mais sinon, j'étais très naïve à l'âge de 4 ans. Là. Donc, tout s'est très bien passé. Puis ensuite de ça, mais vraiment, la page a pu être tournée. Puis j'ai pas eu de problème de santé significatif. Donc, vraiment, l'inclusion dans l'école, dans le fond, il n'y avait pas d'école à Lemieux parce que c'est tellement petit. Donc, il fallait prendre l'autobus pour se rendre à Davey-Louisville, dans une école publique. Juste avant mon admission, toutefois, mes parents ont quand même dû
se battre
pour que je puisse aller à l'école régulière parce que la tendance, encore à l'époque, au début des années 90, c'était encore pas nécessairement pris pour acquis là, qu'on envoyait les enfants handicapés dans les écoles régulières. Puis même encore aujourd'hui, je pense que ça pose problème. Hein. Donc, finalement, intégration à l'école régulière, donc un parcours de la maternelle jusqu'au secondaire 5. dans cette petite ville-là à Devilville, où j'étais en fait la seule personne handicapée, je veux dire physiquement, là, t'sais, visible avec le fauteuil et tout. Donc,
Ça s'est passé comment?
Mais encore une fois, c'est ça, ça s'est passé vraiment très bien. Tu sais, dans le fond, pas vraiment d'histoire à raconter. Puis je pense que tout ça explique peut-être mon choc par la suite quand je suis arrivée à Montréal, là, mais c'est ça, donc beaucoup, beaucoup d'amis, un bon réseau, un environnement relativement accessible aussi, dans une famille aimante, donc
oui,
c'est presque plate à raconter.
En plus, toute seule, il n'y avait pas d'autres grands frères ou petites sœurs pour partager cet amour-là, finalement.
Non, mais heureusement des amis, puis une famille aussi qui, malheureusement, n'habitait pas dans le même coin, là, mais ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est qu'on vieillit, on grandit. Dans le fond, on se regarde, nos amis, nos pères, c'est comme un miroir. Hein? Donc, on oublie un peu qu'on est une personne handicapée parce qu'on se regarde dans l'autre, puis on dit qu'on nous accepte. C'est comme on
est. Donc, il n'y a pas de problème là.
Donc, il n'y a pas de problème.
Non, c'est ça.
Mais malgré tout, c'est ça. Peut-être que là, c'est quand on vieillit, on se rend compte que de bien des choses aussi qui
c'est ça
qui
puis à l'école tard. Ça allait bien aussi est-ce que c'est ça parce que là vous étudiez encore puis c'est c'est vraiment là, c'est des études très très poussées là vraiment c'est extraordinaire donc à l'école j'imagine que ça se passait bien aussi
ouais
mais
à l'école j'étais même pas encore à l'école puis ma mère me montrait la carte du Québec pour me montrer où mon père allait travailler j'écrivais mon nom avant de rentrer à l'école donc j'aimais l'école
avancer
donc c'est ça quand on aime l'école c'est beaucoup plus facile aussi de réussir, là. Puis le système scolaire me convenait. Tu sais, j'avais pas besoin d'adaptation. Donc, à plein de niveaux, c'est ça, tu sais. On est une personne handicapée, mais à plein de niveaux, on est aussi... On entre aussi dans des standards aussi de plein d'autres façons. Donc, pour moi, j'entrais très bien dans le moule de l'école traditionnelle, si on peut dire.
Donc, ça allait très bien. Bon, à 17 ans, tout de même, il y a un départ pour Montréal. Et là, vous l'avez dit, Laurence, pour en parler pendant l'émission, hein, c'est un choc à tout point de vue. Vous arrivez à 17 ans, c'est l'adolescence. Comment vous êtes comme adolescente?
Ben en fait, bon, c'est ça, à l'âge de 16 ans, moi, je veux quitter la région. Je n'ai pas nécessairement beaucoup d'attache, dans le sens où ma famille est plutôt à Montréal ou en Abitibi, du côté de mon père. Donc, pour moi, la région, moi, c'est une étape, mais je veux aller vivre à Montréal. Donc, puis l'excuse, c'est le cégep de Victoriaville n'est pas accessible. C'est vieux, c'est pas accessible, je veux partir.
Mais c'était vrai, ça?
Oui, c'était vrai. C'était vrai, l'entrée accessible.
Mais c'était une fausse excuse, par exemple.
Oui, ben, c'était mon excuse assez facile.
C'est ça.
Puis ben, j'ai eu la chance d'avoir le support de mes parents parce que c'est ça. On peut dire beaucoup de choses, là, mais déménager à Montréal, trouver un logement accessible, avoir les services, vraiment, la transition s'est faite grâce à mes parents qui ont pu faciliter de tout et qui ont même pris un appartement dans le fond à Montréal pour m'assurer que je puisse aller à l'école à temps plein.
Donc Victoriaville, c'était hors de question, mais vous aviez envie de connaître Montréal?
Oui,
et là, finalement, vos parents vous laissent pas tout seul, ils disent, garde, c'est assez, là,
Ah, ben en fait, c'est pas tant ça, c'est plus parce que, à cette époque-là, je savais même pas qu'il y avait des services de soutien à domicile. Tu sais, donc, c'était une nécessité que mes parents viennent avec moi, parce que j'ai besoin de soutien dans ma vie de tous les jours, mais on n'avait aucune idée que ces services-là existaient. Donc, c'était même pas un... c'était plus une obligation.
C'est ça.
Un incontournable et qui allait me permettre d'aller à l'école à temps plein et de continuer de réussir aussi. Là. Donc, mais quand même, c'est ça, pratiquement le jour 1, j'ai mon meilleur ami qui lui aussi venait de déménager à Montréal, lui qui habite dans le centre-ville de Montréal, dans les résidences du Cégep du Vieux. Jour 1, pratiquement, j'ai tenté d'aller le rejoindre, puis je me rends compte que non, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un gros choc. La station de métro à côté de chez moi, elle n'est pas accessible. C'est des choses que, évidemment, je savais, dans le sens que c'était pas que je m'attendais que ce soit accessible, mais c'est je l'avais pas vécu réellement dans le quotidien.
Dans le quotidien, donc, première déception, là, finalement.
Oui, ben en fait, déception...
Parce que voir son ami, vous déménagez, vos parents viennent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut qu'ils vous donnent les soins, mais vous avez envie de continuer cette amitié, et là, il y a comme... Le métro, ça fonctionne
pas? Le métro, ça fonctionne pas, donc on ne laissait même pas, dans le fond. Donc, la deuxième option, c'est les autobus de la STM. Puis, évidemment, la première rampe ne fonctionne pas. Puis, me rendre au métro Mont-Royal, à partir du métro Fab, a dû me prendre 1h30. Donc, vraiment, le choc total.
Ouais. Comment on se sent? La première fois, là, ça arrive, on a fait le changement, on vit une autre ville, on sait sûr qu'il va y avoir des nouveaux amis, mais comment la première fois, devant ce constat-là?
C'est un sentiment peut-être d'impuissance, c'est aussi peut-être un réflexe naturel de pas trop y penser non plus, parce que c'est tellement difficile, puis je veux dire, à cet âge-là, 17 ans, c'est encore assez jeune aussi, mm-hmm. puis aussi au problème aussi de compréhension. Parce que ça peut avoir l'air bête à dire, là, mais la discrimination fondée sur le handicap, je ne savais même pas que ça existait. Mmh. Donc, on ressent des émotions, mais je n'avais même pas les outils puis le vocabulaire pour comprendre ce qui m'arrivait. Donc, dans le fond, on prend le système D, là, la débrouillardise, mmh. puis qui est que j'ai un fauteuil roulant électrique, je vais rouler. Puis rapidement, je me suis rendu compte que je pouvais rouler des kilomètres et des kilomètres pour me rendre à mes destinations. Puis qu'en fait, ça allait être la seule façon pour moi de me déplacer sans trop de contraintes. Parallèlement à tout ça, je découvrais également le transport adapté de la STM, qui était probablement mon choc numéro un et mon plus gros stress aussi. Donc, comme je l'ai mentionné au primaire ou au secondaire, j'étais avec les autres jeunes. Là, d'utiliser un système parallèle, les autobus blancs, à cet âge-là, on veut vraiment pas être différent. Là. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, pour moi, l'idée de me rendre au cégep du Vieux-Montréal, de descendre à la porte dans un autobus blanc pour handicaper, c'était vraiment l'horreur.
Surtout à cet âge-là.
Hein? Ouais, on veut pas,
surtout, on veut pas être
différent.
On veut
pas s'identifier non plus comme personne handicapée. J'avais pas d'amis handicapés non plus, vraiment. Donc, on part de loin.
Alors, on part de loin. Vous avez choisi vos chansons comme tous nos invités d'ailleurs et vous devez nous dire pourquoi. Folly and the Enter, Our Story's End. Pourquoi?
En fait, la raison, elle est assez personnelle, c'est que j'ai une bonne amie qui fait partie de ce groupe-là, qui est un groupe montréalais qui existe depuis quelques années, qui vont bientôt sortir un troisième album. Puis j'aimerais, dans le fond, que les auditeurs découvrent ce groupe-là qui est vraiment très bon.
On écoute.
Biking home, listening to songbirds that signal the dawn up ahead. While these streets are familiar, the mile ends changed in my head. Like the other ones, you have gone and our story has come to an end. There is seldom an action that creates results I intend. Strong ideas take so much space. I can blame you, but I'm the one breaking me down. They
sommes en direct avec Laurence Parent, militante pour l'accessibilité, étudiante au doctorat en sciences sociales à l'Université Concordia. Laurence, donc, finalement, arrivée à Montréal, c'était vraiment pas évident. Bon, vous avez dit d'abord la première chose, prendre le métro, mais on va en parler là, tout à l'heure. Et ensuite, le transport adapté, quand on est adolescente, quand on n'a pas envie de... Disons qu'on est déjà rebelle en partant, on ne veut pas faire comme tout le monde. Le petit autobus blanc, là, on dit, bon, ben, attends-moi à trois coins de rue plus loin. C'est comme ça que ça se passe un petit peu. Comment vous vivez ça?
En fait, on ne peut pas vraiment rien demander de particulier au transport adapté. Non. Donc, non, on donne notre adresse, puis c'est là qu'on descend.
C'est ça, c'est ça. Donc, est-ce que c'était la bonne adresse?
Oui, ouais. J'ai pas pensé à ça. Hein. J'aurais dû descendre un peu avant. mais je tiens également à dire que l'entrée principale du cégep n'était pas accessible. Hein. Donc, deuxième choc. Donc, on descendait à une entrée...
C'était quel cégep?
Cégep du Vieux-Montréal.
Pas
donc,
fort.
Sur la rue Ontario, on voit aux nouvelles, là, quand il y a des barricades, c'est au coin de Sanguinet, l'entrée accessible, elle est plus loin.
Ouais.
C'est pas là que les gens sont. Hein. C'est vraiment l'entrée principale qui n'est pas accessible. Donc, deuxième choc, j'arrive en minibus et en plus à l'entrée parallèle, ce qui... Non, c'est ça, c'est très... C'était un moment très, très difficile, beaucoup d'isolement et moi qui n'étais pas habituée d'être
isolée. Ah, d'isolement,
là? Ouais, ben en fait... Ben, tu sais, comme je l'ai expliqué, j'ai commencé ma maternelle à Davout-Louisville, donc toujours le même groupe d'amis, donc tout le monde nous connaît. Tu sais, pas besoin de se forcer, là. J'ai eu la chance d'embarquer dans le système.
C'est comme une seconde famille, parce
ouais,
que les gens
ça.
Grandissent en même temps que nous et on vit les mêmes choses, oui.
Ça se passe très bien, mais à Montréal, on part pratiquement de zéro, là. Donc là, faut aller vers les autres, mais quand on peut pas suivre le rythme des autres, c'est très extrêmement difficile. On fait ce qu'on peut, mais on se met dans des conditions aussi dangereuses, dans le fond. Parce que là, il faut comprendre que rouler des kilomètres et des kilomètres, c'est pas long qu'au mois de septembre, il commence à faire froid.
Oui, hein? C'est ça.
Donc, il fait froid dans des rues qu'on connaît pas. C'est ça, j'ai 17 ans. Donc, on met en danger un peu. Puis on fait... C'est ça, on se met dans des conditions plus dangereuse.
Plus
le système de transport adapté arrête à minuit. Donc, à minuit, c'est l'heure du couvre-feu là, pour les personnes handicapées à Montréal. Mais quand on a 17 ans, minuit, c'est
ça. C'est là que ça commence, d'habitude.
C'est ça.
Hein? Donc, c'est là que les ados sortent. Là.
Exactement.
Sinon, avant, il n'y a rien qui se passe.
C'est ça. Puis l'objectif étant d'être au cégep du vieux, puis de s'impliquer, puis tout ça. Donc, ça fonctionne vraiment pas. Donc, on prend le plus de risques possible, mais en même temps, je ne suis pas non plus une personne extrêmement intrépide non plus. Donc, on se met évidemment nos propres limites aussi pour également assurer une certaine sécurité aussi. Là. Donc, c'est ça, être à 3 heures dehors, 3 heures du matin, l'autobus fonctionne pas, la rampe fonctionne pas, la chauffeur d'autobus qui... Toutes sortes d'histoires, des plus drôles que d'autres. Ouais, ou encore une histoire, c'est ça, à 3 heures du matin, le chauffeur d'autobus qui dit « Je suis désolée, je sais pas comment ça fonctionne, on me l'a jamais dit. Je vais sortir mon manuel. »
Aïe, aïe, aïe.
Il commence à lire les instructions.
C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Oui, c'est un fait vécu parmi tant d'autres. Ou l'attitude opposée qui est chauffeur d'autobus qui sort et qui dit « À cette heure-là, on les embarque pas, eux autres. »
Ah!
Donc, plein d'attaques comme ça, hein, de formes plus drôles à des formes très, très blessantes aussi.
Oui, je comprends. C'est complètement blessant. Alors, donc, pendant ces études-là, mis à part bon, tout ça qui ne marche pas, puis on va voir, puis qui n'a pas l'air de marcher bien fort aujourd'hui, on va en parler. Les études, ça se passe bien? Est-ce qu'on arrive à être concentré, arriver à temps à ses cours, à faire en sorte que, bon, le cégep, il y a quand même une vie intéressante, on peut échanger. Est-ce que ça se passe bien?
Oui, ça, malgré tout, ça se passe bien, même si ça se passe pas comme on souhaiterait que ça se passe. En grande partie, je reviens au support que j'avais de mes parents, plus particulièrement ma mère, qui était vraiment celle qui m'aide plus directement, mais évidemment, c'est une situation pas évidente, j'imagine, pour mes parents, là, parce que la maison familiale qui reste à Le Mieux, avec mon père qui passe plus son temps là, qui travaille à temps plein, ma mère qui est à Montréal pour m'aider, pour justement que je puisse aller à l'école à temps plein, sans avoir à me préoccuper de tout ça. Bon, à cette époque-là, les cours au Cégep du Montréal commencent à 8 heures le matin, ce qui est assez tôt pour une personne de 17 ans et pour un peu tout le monde. Donc, le transport adapté, si je veux peut-être arriver à l'heure, il faut que je parte à 6h40. 6h40 et j'habite à 30 minutes de métro. Donc là, je reviens toujours à parler de ces choses-là, mais je pense que c'est assez fondamental de voir comment est-ce que ça se dessine. Si les plans changent, que je veux à la bibliothèque ou que quelque chose avec des amis autres, ça ne marche pas, là, parce qu'on ne peut pas modifier. Donc, c'est très difficile. Donc, rapidement, mais en fait, j'ai fait mon cégep pas mal comme ça. Puis à l'université, là, je...
Oui, parce qu'il y a des études à l'université, il y a un baccalauréat en sciences politiques à l'UQAM. Là, est-ce que ça va mieux?
Non.
Ça va pas mieux?
Non, bien, en fait, dans le sens les déplacements, non, on va voir que ça ne s'améliore pas vraiment. Mais ce qui change à ce moment-là, c'est que, bon, ma mère devient mon chauffeur de taxi.
OK.
Parce que là, ça ne marche vraiment pas, là. Donc, grâce à ce taxi privé-là, ben je peux continuer à aller à l'école à temps plein, puis à réussir, puis avoir une certaine flexibilité aussi dans mes horaires. Mais ça, c'est vraiment pas tout le monde qui a cette chance-là.
Mais non. Et puis, à l'UQAM, en gros, qu'est-ce qu'il y avait qui n'allait pas?
En fait, je parle toujours de me rendre.
C'est toujours le maudit transport.
Ouais,
on le dit, le maudit transport.
On peut le dire comme ça. Mais sinon, même à l'université, effectivement, problème d'accès à avoir une salle de bain accessible, ça peut sembler banal. Hein,
il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas. Donc là, c'est de se retrouver dans l'infirmerie du poste de sécurité. Puis c'est là, dans le fond, que j'ai été pendant la durée de mon bac. J'étais dans l'infirmerie du poste de
sécurité.
Parce qu'ils n'avaient
pas pensé à faire une toilette.
Non, ben en fait, c'est ça. Quand on parle d'accessibilité, il y a toutes sortes de définitions. Donc, dans le fond, la définition de la toilette accessible à l'UQAM, c'est une espèce de petit cubicule. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est pas vraiment accessible pour moi, donc c'est ça. Donc là, j'étais dans le poste de sécurité où, dans le fond, un agent ou une agente pouvait entrer à tout moment. T'sais, c'est assez fou hein, quand on pense à ça, mais c'est ce que j'ai vécu. Ça, c'est quelque chose qui a changé à l'UQAM il y a peut-être 3-4 ans.
Oui, j'ai vu en préparant l'émission qu'il y avait eu des choses qui avaient été améliorées.
Il y a maintenant une salle de bain accessible
à l'UQAM. Oui, exactement.
Oui,
tout à fait. Mais j'en voyais pas plusieurs, hein, mais il y en avait quand même qui avaient été...
J'ai choisi l'UQAM, entre autres. C'est ça, là, je ne le parle pas nécessairement bien, mais au niveau de l'accessibilité, l'UQAM est un choix évident par rapport à l'Université de Montréal, parce que les pavillons sont plus facilement accessibles par le souterrain, des choses comme ça. L'Université de Montréal, c'est vraiment infernal.
Alors, j'imagine que ça grandit à l'intérieur de vous. Là, il y a une espèce d'injustice de dire... Et puis là, la militante est en train de naître là, pendant ce temps. Pendant qu'il y a les études, pendant qu'il y a plein de choses qui se passent, puis votre mère est extraordinaire, elle fait le chauffeur de taxi pour pallier, pour que sa fille puisse avoir des études. Là, il y a la militante, là.
Mais en fait, ce qui se passe parallèlement à tout ça, c'est que, bon, très jeune, là, moi, je finis avec une forme de nanisme. Puis mes parents ont été en contact avec l'Association québécoise des personnes de petite taille. Puis, bon, évidemment, plus de services au niveau quand j'étais enfant. Mais quand je suis déménagée à Montréal, je me souviens plus pourquoi et comment, mais j'ai commencé à m'impliquer à l'Association québécoise des personnes de petite taille. Puis là, il y a une personne, Michel Leduc, qui a commencé à m'initier plus au dossier de défense des droits, au niveau plus de la santé, des choses comme ça. Donc là, j'ai commencé à connaître le milieu de la défense des droits des personnes handicapées. Donc, mais c'était très... c'était parallèle, mais les études et cette implication-là ne se chevauchaient pas du tout. Pour moi, j'avais, malgré tout, c'est vraiment spécial à dire, mais j'avais toujours pas fait le lien entre le politique et mon implication. C'est comme, c'est ça, c'est difficile de comprendre, là, mais le lien se faisait
pas. Mais c'est fait plus tard, quoi.
Ouais, ben en fait, ça s'est fait plus tard, dans le sens vraiment vers la fin de mon bac, où là, j'ai également fait des voyages à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur du Québec, où là, j'ai découvert des villes plus accessibles. Donc là, tout ça comme s'imbrique, soudainement, là...
C'est mis ensemble.
C'est mis ensemble. Ouais. Et je commence à m'intéresser aux enjeux des personnes handicapées. Puis je commence une maîtrise en politique et droit international à l'UQAM après mon bac. Et je commence à faire mes travaux sur, dans le fond, la convention relative aux droits des personnes handicapées qui venait d'être adoptée à l'ONU. Puis mes profs me disent « c'est super intéressant, mais je connais pas ça. Je connais pas du tout ce domaine-là. J'aimerais t'aider davantage, mais pour eux, c'était complètement nouveau. » Puis, bien évidemment, merci, grâce à Internet, évidemment, on fait des recherches. Puis un peu par hasard, je découvre qu'il existe les Disability Studies, les études sur le handicap. Mm-hmm. Puis c'est là vraiment que là, tout s'allume pour moi. Je dois également dire, c'est ça, il y a plusieurs choses hein, qu'on parle de sa vie, qu'on oublie, mais que j'ai rencontré Maria Barilé, qui était une féministe et militante pour le droit des femmes handicapées, qui, elle également, là, parallèlement à Michel Leduc, m'a initiée aussi dans une perspective, je dirais, encore plus critique. C'est vraiment une compréhension de plein d'enjeux ensemble. Puis donc, vraiment, tout ça s'imbrique. Puis je réalise que je vais devoir quitter Montréal si je veux approfondir ces études-là. Parce qu'à Montréal, il y a malheureusement pas de programme.
On vous dit aussi, c'est très intéressant, mais on s'y connaît pas. Donc, non, vous n'avez personne pour vous épauler, pas de tutorat non plus, pas personne. Donc, c'est pour ça que vous partez. Je voudrais revenir aussi sur le transport à l'extérieur. Vous allez à l'extérieur et il y a un constat, pourtant c'est le même pays, et vous réalisez que c'est mieux à Vancouver, c'est mieux, sauf chez nous, sauf là où vous habitez. Sauf à Montréal.
Ça aussi, c'est un gros choc, évidemment. Là. Donc, Vancouver, en 2006, je peux utiliser les autobus. Je suis bienvenue à bord des autobus. C'est pas juste le matériel, hein, c'est aussi les attitudes. Donc, ça, vraiment un choc. Après ça, je suis passée 2 mois en Europe. En Europe, j'ai voyagé dans plusieurs villes. Toujours la même expérience, beaucoup plus positive. Puis on s'est bien habité à Toronto pendant 1 an et demi, où là, vraiment...
Là, c'était bien. Là, vous étiez très heureuse.
Oui, puis je peux en témoigner parce que je suis restée là plusieurs mois.
Alors, on va à la pause publicitaire, on revient tout de suite après.
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Laurence Parent, militante pour l'accessibilité, est avec nous en studio. Donc, Laurence, vous avez donc vécu à Toronto et là, ça va l'air le bonheur, hein? Au niveau du transport, là.
Ben en fait, c'est que quand on compare avec Montréal, hein, on part tellement de loin. Mmh. Toronto, c'est loin d'être parfait. On parle d'un système de métro qui a environ 40 % des stations accessibles. Mais pour une Montréalaise, c'est l'Eldorado.
Mmh. Oui, parce que là, on est dans les dossiers. Vous vous impliquez en 2009, vous confondez le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPIC, et vous occupez le poste de vice-présidente donc jusqu'en 2014. Entre-temps, il y a un document qui est réalisé, produit par vous, un documentaire intitulé, je me souviens, « Excluded from the Montreal Subway since 1966 ». Alors là, on va donner les vrais chiffres pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas. 68 stations à Montréal ne sont pas accessible. Ce qui veut dire qu'il y a seulement 8 stations de métro qui sont accessibles.
En fait, il y a un total de 68 stations, puis il y en a 8 qui sont accessibles.
Pardon, voilà, 8 seulement. Alors, c'est énorme, là.
Oui.
Je veux dire, c'est donc, ça, c'est le transport public de Montréal. Quelles sont les stations qui sont accessibles, finalement?
Donc, il y a les 3 stations de Laval qui sont neuves, hein, oui. Sinon, Berry-UQAM sur la ligne Orange seulement, Lionel-Groulx, Henri Bourassa, Côte-Vertu et Champ-de-Mars. Donc voilà nos 8 stations.
Bon, puisque vous avez fait des études en sciences politiques, que vous vous intéressez, que vous avez été au RAPLIC, la militante, elle est là. Qu'est-ce que les politiques disent de ça? Parce qu'il y a le métro, il y a l'autobus où il y a des rampes qui sont très peu fonctionnelles, il y a des rampes qui ne sont pas déployées en cas de neige. Parfois, quand le bus est plein, on vous laisse sur le trottoir, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et qu'est-ce que les politiques vous disent?
Vous voulez dire les politiques qui existent en ce moment? Ben, ils nous disent absolument rien. Parce qu'il y a un vide assez incroyable. Je veux dire, au niveau de la loi là, sur l'intégration l'exercice des droits des personnes handicapées au Québec. Ce que la loi prévoit au niveau des transports, c'est que les sociétés de transport déposent des plans de développement de l'accessibilité universelle. Mm-hmm. Donc, par exemple, concrètement, la STM va soumettre un plan au ministère des Transports du Québec en disant, par exemple, on va rendre 4 stations de métro accessibles d'ici 2020. Peu importe là, ce que je dis, c'est pas nécessairement le cas. Là. Donc là, les ministères des Transports approuvent ou pas ce plan-là, ou non ce plan-là. Puis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le ministère des Transports qui va donner essentiellement les budgets à la STM pour réaliser ce plan-là. Donc concrètement, là, on parle pas d'une loi avec des objectifs concrets, tout ça. C'est vraiment une loi assez floue, là, dans le fond. Développons l'accessibilité universelle. On peut écrire un petit peu ce qu'on veut dans ce plan-là, là. Donc c'est le ministère qui l'approuve, donc il y a ça. Sinon, c'est ça au niveau du fonctionnement. Ben, en théorie, c'est ça, les rampes, une personne en fauteuil roulant attend à l'arrêt, la rampe doit en théorie être déployée, mais quelle est la procédure à suivre? Selon la STM, le chauffeur d'autobus, si la rampe ne fonctionne pas, doit appeler la base, attendre qu'un chef d'opération vienne sur les lieux, puis voit ce qu'on fait avec la situation. Mmh, mmh. Ça fait 12 ans que je prends les autobus, là, puis cette situation-là
n'est toujours pas réglée.
En fait, c'est que ça ne s'est jamais produit. La SM ne suit pas sa propre façon de faire en plus. Là.
Puis en ce qui concerne le métro, parce que vous avez dit, puis ça c'est deux nouvelles stations, mais depuis 12 ans, là, est-ce qu'il y a eu d'autres stations de métro accessibles ou ça n'a pas bougé?
En fait, depuis 12 ans, ça a commencé à bouger. Okay. Parce qu'avant Laval, donc avant 2007, il n'y avait aucune station accessible. Mm-hmm. Quand on a construit les stations à Laval, il y a eu des études qui ont été faites. Le ministère des Transports a mis sur pied un comité, puis on a évalué si, oui ou non, on devait rendre les stations de Laval accessibles. Donc, encore en 2003, c'était une question. Est-ce que les nouvelles stations qu'on construit, est-ce qu'on les rend accessibles, oui ou non? Mmh. Donc, ça, c'est des choses assez intéressantes que j'ai découvert en faisant ma maîtrise sur le sujet de l'inaccessibilité du métro de Montréal. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressée à tous ces détails-là. Donc, ensuite de ça, bien évidemment, on rend les stations de Laval accessibles. Il faut que ça mène quelque part. Hein. Puis, on a fait aussi des études, puis on s'est rendu compte que Montréal était vraiment en queue de peloton au niveau international.
60 stations, là. Donc, faut le dire. Moi, je vais le répéter tout le long, s'il le faut, de l'émission, c'est 60. Dites-moi, alors, donc, votre titre de votre recherche, votre doctorat, c'est quoi, au juste? c'est toujours en fait, long, hein? Ouais, c'est toujours à dormir dehors, là.
C'est long, mais en fait, j'écrivais sur le niveau de l'hégémonie des escaliers dans le métro de Montréal, parce qu'avant 2007, c'est ça, c'était un environnement, un système complètement inaccessible. Je m'intéressais à... Ben, premièrement, il n'y avait rien d'écrit vraiment sur le sujet. Donc ça, c'était... assez incroyable. Ouais. Quand on en parle, on parle du métro. Ben, c'est une fierté hein, pour Montréal, le métro. Ben, je sais qu'il y a des mauvaises nouvelles quand même assez régulièrement, malheureusement, mais ça reste une fierté pour Montréal, un système qui a gagné un prix en 2010 de la meilleure société de transport en Amérique du Nord. C'est la STM qui a eu ce prix-là. Donc, on a quand même plusieurs raisons d'être fiers, mais il y a une raison pour laquelle on a aucune raison d'être fiers au niveau de l'accessibilité.
L'accessibilité universelle, il faudrait.
On n'en parle pas. Puis, ben, dans le fond, moi, l'objectif de ma recherche, c'était de démontrer comment est-ce que tout ça avait pu être rendu possible, puis de mettre ça en parallèle avec l'histoire des personnes handicapées au Québec aussi, dont on parle très peu, parce qu'elles ont une histoire, mais on en parle peu, on ne l'apprend pas à l'école non plus. Donc, comment est-ce que tout ça a été possible?
Une piste. Pas beaucoup, parce que vous êtes en train de travailler dessus et puis ça prend des recherches et tout ça. Et pourquoi, d'après vous?
C'est une très bonne question dont je n'ai pas vraiment une réponse précise. J'ai l'impression là, que, bon, au début, dans les années 70, on a voulu faire un pas en avant. La loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées à cette époque-là était quand même révolutionnaire, là, je mets des guillemets, là. Mais selon les personnes avec qui j'ai parlé qui étaient là dans ce temps-là, ça a vraiment tué, dans un sens, un peu le mouvement, les élans qu'il y avait à l'époque. Mmh. Il y avait des gens qui manifestaient à l'époque, mais il y a une loi qui a été mise sur pied avec l'Office des personnes handicapées qui a été créée. Les gens à cette époque-là disaient « on ne veut pas l'Office des personnes handicapées, on veut être inclus dans tous les ministères, on ne veut pas avoir un office spécial ». Mais c'est ce qui s'est produit. Puis l'Office des personnes handicapées a engagé beaucoup de personnes handicapées, évidemment, parce qu'ils avaient... Ouais. Ce qui est une très bonne chose. Sauf que le mouvement de la défense des droits, lui, a souffert d'un exode des cerveaux les années 80.
Est-ce que ça fait comme deux solitudes, finalement? Ben, c'est-à-dire en fait, un peu, on se dit, on a une instance qui s'occupe et puis on n'incorpore pas vraiment. On se dit, bon, on s'en occupe, mais dans une instance.
Oui, ben en fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait. C'est, les autres ministères disaient, ben allez à l'Office. C'est l'Office qui s'en occupe. Des personnes handicapées, donc on se déresponsabilise un peu.
On se débarrasse un peu.
On se débarrasse un peu, puis finalement, on rentre dans une logique de négociation beaucoup. Donc le rapport de force change pour une raison ou une autre. Les gens préfèrent tempérer leurs demandes. Il y a aussi beaucoup, je veux dire, les gens sont tellement dans des conditions difficiles. Hein. En 1988, il y avait eu des grosses manifestations à Montréal. Un groupe d'Américains des États-Unis qui sont venus manifester pour l'accessibilité des transports en commun. Il y avait l'habitude de manifester dans toutes les villes où une certaine convention là, sur le transport public se tenait. Puis en 88, c'était à Montréal. Donc, eux sont venus à Montréal. Avant de venir, ils ont contacté le RUTA de Montréal pour leur dire « On vient, est-ce que vous venez avec nous dans la rue pour manifester? » Puis, à cette époque-là, le RUTA avait choisi « Bien, en principe, on vous supporte, on ne peut pas être contre l'accessibilité, mais non, nous ne serons pas là. » Puis ce qui se disait beaucoup dans le milieu à l'époque, c'était si on revendique pour l'accessibilité du transport en commun, bien, on va perdre le transport adapté.
Puis les gens... ils avaient peur de ça?
Oui, et je dirais qu'il y a encore des gens qui ont peur de ça aujourd'hui encore. Parce que c'est facile, hein? Les gens sont beaucoup pris en otage, je dirais. Le transport adapté, c'est tellement difficile, c'est tellement la seule chose. On peut se faire raconter un petit peu n'importe quoi. Hein. C'est facile de dire, bon, on va rendre le métro accessible, on va mettre des millions, mais on n'aura plus d'argent pour le transport adapté. C'est facile de dire ces choses-là.
De manipuler, finalement. C'est
exactement.
De la manipulation, ça.
Heureusement, c'est beaucoup moins pire aujourd'hui. Mm-hmm. En plus, avec Internet, les médias sociaux, c'est beaucoup plus facile de faire entendre les choses. Là. Mais en 88, c'est ce qui s'est passé. Mais il y a eu des manifestations monstres. J'ai vu des images de ça. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. Les gens qui ont bloqué des autobus, qui se sont jetés en bas de leur fauteuil roulant, en bas des escaliers. Il y a des gens qui ont participé, dont Maria Barilé, à l'époque, qui était vraiment, bon, je suis prête à risquer, à prendre des risques. Mmh. Ou des gens qui avaient la liberté de le faire parce que leur emploi n'était pas nécessairement menacé, quand même qu'elles se font arrêter par la police.
Donc, il y a eu comme une mini-révolution, là.
Oui, oui, les gens
se sont fait... Un éveil nécessaire, là. Fallait faire ça, finalement.
Oui, puis il y a eu plein d'autres... Je veux dire, les gens aussi, là, il y a également des gens qui ont manifesté pour avoir du transport adapté. Tu sais, on partait vraiment de rien, hein. Donc, quand on obtient, finalement, quelque chose, ça devient... Je présume qu'à un certain moment, ça devient peut-être épuisant. On préfère maintenir nos acquis. On est dans les années 80. On commence là, à entrer dans une période de conservatisme davantage au niveau des dépenses. Hein. Malheureusement, les personnes handicapées, elles, la révolution, c'est là qu'elle commence. Mm. Mais elle commence dans une période économique très difficile, un climat politique très difficile aussi. Donc, quand on rentre là-dedans, bien évidemment, ben, c'est c'est très, très difficile de faire avancer de tels dossiers dans un tel contexte. Puis ben, il y a également aussi la différence culturelle, je crois, qui, encore aujourd'hui, il y a une espèce de deux solitudes. Tantôt, vous avez mentionné le mot deux solitudes. Oui. Je crois que ça s'applique beaucoup à l'accessibilité, hein, parce que je veux dire, Toronto, c'est juste à côté.
C'est ça. C'est ça.
Officiellement, c'est toujours dans le même pays, mais malgré tout, au niveau... c'est ça, il y a un mur qui est là, que je peux comprendre à un certain point aussi, parce que, bon, avoir accès à cette information-là, faut avoir une bonne compréhension de l'anglais, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Mm. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir cette exposition-là ou cette facilité-là avec les langues, je sais pas. Donc, mais je déteste dire ça en même temps aussi, parce que je crois que le Québec est quand même une société ouverte à plusieurs égards, mais malgré tout, il y a beaucoup de contradictions aussi.
Il y a encore des choses à changer.
De
s'inspirer du même pays, mais un petit peu plus loin, comme vous dites, à Toronto, ne serait-ce que juste ça, là.
C'est de trouver aussi la façon dont on veut en parler, nos mots aussi pour le faire. Donc, c'est ça, moi, dans le fond, quand je suis partie étudier à Toronto, j'ai découvert toute la littérature des études sur le handicap. Comme, dans le fond, mettons les études féministes, mais ou des études de genre, un peu la même chose, dans le sens où on regarde la société au niveau de la politique, l'économie, voir comment est-ce qu'on construit le genre, le sexe, mais par rapport au handicap.
Alors, on va faire une pause musicale. Vous avez choisi cette chanson, c'est de Kate et Anna McGarrigle. Et puis, entre la jeunesse et la sagesse, pourquoi?
En fait, je repense, je savais qu'on allait parler de l'adolescence ou de la jeune vie adulte. C'est une chanson que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écoutée à mon arrivée à Montréal, puis je trouve qu'elle est également magnifique.
On l'écoute.
Pâté de maison.
Laurence Parent est avec nous. Alors, au niveau du transport, on peut dire que Montréal traîne vraiment de la patte. Vous avez dit, si tu ne te déplaces pas, tu restes en place, tu restes chez toi. Et ça, c'est vraiment une phrase qui me touche beaucoup. C'est aussi une question de survie.
Oui, puis les années passent. Hein? Je demeure quand même jeune, mais malgré tout, les années passent. Ça fait déjà 12 ans que je suis à Montréal. Puis je suis beaucoup moins... ma tolérance diminue d'année en année. On se fatigue beaucoup. Ça prend beaucoup d'énergie pour surmonter tous ces obstacles-là, les endurer. Moi, il y a des choses que j'accepte plus, juste que j'accepte plus, puis que c'est ce que je reste beaucoup plus chez moi. C'est les amis qui vont venir. Donc forcément, il y a un certain isolement qui s'accentue à un certain niveau, malgré tout, là.
Oui,
parce
oui.
qu'on est conscient, plus de conscience aussi des dangers. Tu sais, sortir quand il fait moins 30, je le faisais peut-être à 17 ans, à risquer d'attendre 45 minutes
oui.
pour un autobus, mais maintenant, je mesure plus les dangers, puis je vais choisir... de rester chez moi.
Parce que, justement, il y a l'autre solution. Bon, le métro, on en a parlé, c'est pas terrible. Hein? Et le transport adapté, ben, c'est aussi, pour en parler avec plusieurs, parfois, quand il y a une tempête, ben, on peut pas. Ensuite, on est obligé d'annuler les activités, la réservation en ligne qui n'est pas accessible pour tous. Souvent, les gens arrivent soit trop en retard, très en retard, ou trop en avance. Le 30 minutes après l'heure confirmée, faut pas être en retard non plus, là. Je veux dire, c'est...
Ben pour se parler, franchement, avoir un emploi ou avoir... aller à l'école, c'est ça, la ponctualité, c'est pas une possibilité avec le transport adapté. Donc, ça devient extrêmement problématique là, dès qu'on a un engagement. Puis même, je veux dire, ça peut être un souper avec des amis. Mm-hmm. Je veux dire, ça fonctionne pas là, pour tout le monde, je veux dire. Puis on parle aussi du transport adapté pour les personnes âgées, les personnes qui ont peut-être des situations de santé plus précaires. Le transport adapté, il faut vraiment être tough hein, pour être capable d'attendre oui. avec son manteau.
30 donc, minutes dehors, là. J'ai dû 30 minutes, moi, dans les commentaires. Et vous avez dit aussi que quand vous êtes avec le transport adapté, vous perdez votre liberté.
Oui, je ne me suis jamais sentie libre dans un transport adapté à Montréal. Aucun contrôle. C'est vraiment le système qui contrôle la personne, pas le contraire. Toute la liste, vous en avez énuméré plusieurs points, elle pourrait se continuer encore et encore. On peut seulement être accompagné d'une personne. Donc, si vous avez deux sœurs, ça ne fonctionne pas. Là. Si vous avez deux amis, ça ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez comprendre. Ça, c'est juste un petit exemple. Si vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin d'aller quelque part, ça ne fonctionne pas. Si vous avez des enfants... que vous devez soudainement vous rendre, aller chercher votre enfant. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment à tous les niveaux.
OK. Bon, les taxis, c'est guère mieux, hein, parce que sont vraiment pas, la plupart ne sont pas adaptés non plus.
La majorité des taxis accessibles travaillent pour la STM. La STM a un système de sous-traitance. La majorité des transports adaptés sont sous-traités au privé, aux taxis adaptés. C'est un autre enjeu aussi. Très problématique. Mais au niveau du taxi privé, ce qui se passe, c'est que dans le fond, il n'y a pas de taxi accessible. Il y en a très, très peu. Parce que la majorité travaille pour la STM. La majorité préfère travailler pour la STM parce que la STM va payer la course plus un petit montant pour l'embarquement de la personne. Tandis que dans le privé, ben selon la loi, c'est le compteur. Donc, c'est moins payant pour les chauffeurs. Mais c'est la loi, malgré tout. Il y a des chauffeurs, des compagnies qui surtaxent, qui surchargent les courses aux personnes handicapées. Ça, je l'ai vécu.
Oui,
j'ai dû porter plainte à la Commission des droits de la personne parce qu'il y avait une compagnie qui constamment, là, peu importe où j'allais, allait me charger un prix fixe qui pouvait dépasser le double. Ça peut être le
incroyable.
Double de la course.
Incroyable. Donc, il faut le dire à ce micro. Donc, vous avez porté plainte. C'est ce qu'il faudrait faire aussi. pas se laisser abuser comme ça. D'autres dossiers, la majorité des bars et des restaurants à Montréal, c'est pas fort. Puis des salles, là, moi, chaque jour, je vois ça. J'y vais pas. Je regarde, puis je fais, OK, on peut pas venir dans votre restaurant si on a une chaise roulante. C'est pas possible, ça. Mm. Il y en a beaucoup, ça. Puis des salles de spectacle aussi.
Ah, c'est répandu. Puis le problème, c'est pas seulement que, bon, c'est là que ça existe. Le problème, c'est que ça change pas. C'est ça qui est fâchant. Ouais. Tu sais, ça fait peut-être pas 30 ans que je suis impliquée, mais ça fait déjà 12 ans. Fait que je pense que j'ai quand même une certaine petite perspective historique. Ça change pas. Ça change pas du tout.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, nous, on peut les boycotter? Est-ce qu'on peut dire on n'y va pas parce que vous n'êtes pas accessible? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça bouge davantage, Laurence?
À ce niveau-là, il y aurait peut-être un potentiel à ce niveau-là, mais c'est pas évident parce que là, on demande aux gens de vivre ce que les personnes handicapées vivent, qui est assez terrible. Mm. Tu sais, je veux dire, moi, dans mon quartier, des restaurants accessibles, je peux les compter sur le doigt de ma main. C'est pas évident. Je pense que ça, c'est une chose, mais je pense que le problème, il est à un autre niveau, au niveau des lois. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'une telle chose est possible?
Mais il va falloir avoir une loi.
Faut changer la... On a besoin d'une meilleure loi.
Parce que la loi, elle est désuète. Malheureusement, il faut passer par les lois.
Exactement, des lois, également des programmes pour stimuler tout ça. Parce que des fois, c'est les commerces qui veulent devenir accessibles, mais qui n'ont aucune idée comment le faire, parce que l'information n'existe pas.
Donc, il faut légiférer davantage, parce que comme ça, là, vous avez dit, moi, ça fait 12 ans, puis dans mon quartier, je peux compter sur une main les endroits accessibles. Ouais. Et sans parler des dernières élections... Ou parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir les gens du Rappelic au micro pour en parler. Ils ne pouvaient même pas aller voter. Ouais, ils ne pouvaient même pas aller voter. Là. Je veux dire, les droits fondamentaux de citoyens et citoyens, ils sont allés, ils se déplaçaient et ce n'était pas accessible.
Mm-hmm. Ou encore, il y avait une rampe, sauf que la rampe était dans une cour d'école enneigée. Impossible de se rendre. La rampe est serrée sur le côté parce que c'est une rampe à mobile. Elle n'est pas installée. La rampe est trop à pic. Plein d'excuses et de raisons comme ça.
Alors, beaucoup de travail à faire qui reste. En tant que militante, on a besoin de vous parce que c'est pas simple et j'ai l'impression qu'on traîne de la patte, qu'on est vraiment en arrière. Mais grâce à vous, les choses changent. Puis en plus, on va avoir des écrits, votre doctorat bientôt, qu'on pourra lire, essayer de comprendre davantage. On fait une pause et tout de suite après, les questions rafales. Laurence Parent, quels sont vos mentors?
Ben, je tiens encore une fois à souligner Maria Barillé, féministe, activiste pour le droit des femmes, des personnes handicapées à Montréal, professeure que j'ai eue qui m'a supervisée à l'Université York, Jeffrey Young, qui fait de l'histoire des personnes handicapées, dans le fond, qui m'a enseigné que chaque événement historique peut être visité d'une perspective du handicap. Puis présentement, à l'Université Concordia, Kim Sachuk, avec qui je travaille depuis maintenant 3 ans, qui est une féministe, une professeure en communication, médias mobiles, avec qui je fais plein de projets, puis qui me donne envie, dans le fond, de continuer dans le monde universitaire, qui est également rempli d'obstacles.
Vos livres que vous nous recommandez?
Malheureusement, je lis beaucoup plus des journaux et des articles scolaires, là, d'école, mais au niveau, un recueil de textes qui s'appelle « Cryptique », qui est toutefois en anglais, mais plein de petits nouvelles ou des textes d'opinion écrits par des personnes handicapées. Sinon, la biographie de Simi Linton, une activiste, une artiste handicapée également des États-Unis. Le titre, c'est « My Body Politique ». Donc, il raconte, elle est partie de New York pour aller sur la côte ouest. Comment est-ce qu'elle a découvert, dans le fond, le milieu des personnes handicapées dans les années 70 jusqu'à dans les années 80.
Et vos villes que vous nous recommandez?
San Francisco, la région de San Francisco pour l'accessibilité, c'est vraiment fantastique. J'ai également voyagé à Berlin il y a plusieurs années déjà et l'accessibilité était assez impressionnante à cette époque-là. Puis je tiens à souligner que malgré tout, Montréal est une ville que j'aimerais connaître davantage, donc comme on se sent un peu étranger dans notre propre ville, mais je pense que c'est une ville qui a énormément de potentiel, malheureusement que je ne connais pas assez.
Merci beaucoup, Laurence Parent. Merci à mon équipe, à la mise en onde, réalisation de l'émission Jean-Sébastien de la Liberté, à la recherche Christiane Campagna et aux médias sociaux Kevin Breton. À la semaine prochaine. Bye bye.